Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et bienvenue à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Denis Chagnon et je vous invite à découvrir aujourd'hui un guide sur Compostelle pas comme les autres. En fait, il est tout à fait unique en son genre et pourra inspirer tant les pèlerins du chemin de Compostelle que les adeptes de randonnées de longue durée un peu partout sur la planète. Ce nouveau guide paru aux éditions Ulysse et intitulé « Sur les chemins de Compostelle » est unique à mains égards, de par son contenu, son envergure, son universalité et surtout par l'esprit de collaboration qui a mené à sa réalisation. Pour nous en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir au bout du fil la présidente de l'Association du Québec à Compostelle, Joanne Morin. Madame Morin se joint à nous depuis sa résidence à Québec. Bonjour, Joanne.
Bonjour, Denis. Comment allez-vous?
Très bien, vous-même.
Ça va très bien. Et en passant, il y a quelqu'un qui m'a soufflé à l'oreille qu'aujourd'hui, c'était votre anniversaire.
Oh!
Donc, je vous souhaite une journée chargée de beaux moments et de belles magies.
Que c'est gentil de votre part. Je soupçonne qui vous en a fait. Révéler le secret, quoi. Merci, Denis. Et donc, en studio, retour d'un ami de Marcher vers le bien-être, Denis Dumais, qui nous avait livré l'an dernier un poignant témoignage de son expérience sur le chemin. Bonjour, Denis.
Bonjour, Denis. C'est toujours un plaisir.
Toujours. Alors, Joanne, j'amorce la conversation avec vous. Pourriez-vous nous décrire la genèse du projet et surtout les objectifs que vous poursuiviez?
D'accord. Alors, je vous dirais que ce projet-là, ça fait au minimum 5 à 6 ans qu'on y cogitait. À la base, on voyait ça comme un guide tout simple, presque une impression boudinée. Et vous voyez comment on a pu faire du chemin depuis ce temps-là. Les objectifs principaux, en fait, c'est que on voulait avoir une carte de visite, un moyen de visibilité tant pour l'association au Québec que au niveau de l'Europe francophone. Donc, et la maison Ulysse, on était exactement dans le créneau qu'ils recherchaient, donc on a cru que le moment était bienvenu pour nous de se lancer dans cette grande aventure.
Alors, c'est vous qui avez lancé les discussions avec la maison d'édition, si j'ai bien compris.
En fait, à la base, il y avait Jean-Marc Darvaux qui est un vieux de la vieille du regroupement de la région de Québec. Il y a eu Denis et moi qui avons commencé les premières communications avec Monsieur Morneau de chez Ulysse.
Alors, j'ai mentionné, Joanne et Denis, bien sûr, que le guide est tout à fait unique. Et j'en prends comme témoin les 5 sections que vous avez regroupées, l'information dans le livre. Et on parle surtout de contenu d'envergure, c'est-à-dire qu'on parle de l'avant.
Oui.
Du pendant et de l'après du chemin de Compostelle et aussi, bien sûr, les chemins eux-mêmes. Alors, si on pouvait décortiquer un tout petit peu brièvement, et nous allons y revenir pendant la conversation.
Si tu me permets, Joanne, dans le fond, peut-être que d'entrée de jeu, il y a quelque chose qu'il faut dire, que ce n'est pas un guide d'accompagnement. C'est un guide de présentation large et on a voulu présenter le plus large possible ce qui était l'expérience de Compostelle. Donc, autant il y a des éléments d'histoire, il a fallu clarifier la notion de pèlerinage. Donc, ensuite, on a parlé de la préparation. On a voulu aussi dire que, avant tout, Compostelle, c'est une expérience. Donc, on a voulu se ramener au quotidien du marcheur, au quotidien du pèlerin. On a présenté les chemins et, bien entendu, on n'oublie pas le retour, en tout cas. Pour nous, l'association, l'élément du retour, comment on atterrit suite à une expérience aussi significative que celle de Compostelle. Donc, ça nous apparaissait important. Donc. Et bien évidemment, on en parlera sûrement un peu plus tard, l'élément communautaire aussi traduit bien notre désir de, à la fois de traduire une expérience qui se veut intime, mais aussi de le traduire d'une façon communautaire. Donc, ces deux éléments-là ont été importants.
Donc, c'est encore une fois ce qui distingue ce guide ou ce manuel des autres guides.
Entre autres.
Oui.
Bon. Et une autre distinction très importante, c'est le nombre de collaborateurs qui ont participé à la réalisation du livre. Et là, Denis, peut-être que je vous laisse, ou Joanne, vous voulez-vous expliciter un peu?
Écoutez, étant donné que Denis a été le chef d'orchestre de ce chantier, je vais lui laisser le plaisir d'en parler.
Tu ne gênes pas, Joanne, pour intervenir. J'oublie des choses. Ouais. Donc, effectivement, bon, d'un premier temps, lorsqu'on a été approché par Ulysse, on a été flatté, mais en même temps, on a eu un peu la trouille. On nous dit, ouf, mon Dieu, c'est gros, Ulysse, etc. Donc, il fallait s'assurer, dans le fond, qu'on avait tous les morceaux de notre casse-tête. Et je dirais, l'élément déterminant, c'était l'élément, est-ce qu'il va y avoir suffisamment de collaborateurs pour offrir un contenu qu'on souhaitait, un contenu de qualité, donc qui était à la hauteur de ce qu'étaient les guides Ulysse. Donc, recrutement, on est allé chercher dans l'ensemble de nos 2500 ou de 3000 membres dans 8 régions. Et là, on a identifié des personnes clés. Donc, des personnes soit qui avaient beaucoup d'expérience en termes de chemin, donc qui avaient fait 10, 15, 12 chemins. Il y a des éléments qui avaient des backgrounds d'histoire, de psychologie, d'ergothérapie, etc. Donc, on s'est retrouvé avec une brochette de gens qui, spontanément, ont vu dans cette expérience-là la possibilité de donner au suivant, de traduire de ce qui était l'essentiel de leur expérience personnelle et de redonner à une nouvelle génération de pèlerins et de pèlerines. Donc, on s'est retrouvé avec presque 30 personnes.
30
Donc
personnes.
Là-dedans, il y a des gens qui ont écrit des textes, il y a des gens qui ont révisé, qui ont relu les textes. Donc, on a une belle brochette de personnes qui ont été très rigoureux dans leur démarche. Puis après ça, bien entendu, ce qui était le défi, c'est qu'il y avait notre équipe, mais il fallait aussi travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'Ulysse. Qui, eux, bon, il y avait l'éditeur, il y avait les correcteurs, il y avait les infographes, etc. Donc, c'est un travail de va-et-vient. Je dirais que chaque texte, ou à peu près, on peut facilement calculer 5 versions, 5 à 6 versions dans ce va-et-vient-là, avec souci autant du côté d'Ulysse que de notre côté, d'améliorer et de préciser, de nuancer, qu'en faire ça peut, pour arriver, dans le fond, à un produit dont on peut être fier. Donc,
vous êtes allé chercher les sommités, en fait, de la marche de longue durée ou de Compostelle au Québec?
Oui, oui. Déjà, en fait, ce qui était important, c'est que c'est tous des gens qui ont fréquenté. C'est des membres de l'association. Donc, pour Ulysse, dans la démarche de part, l'auteur, c'est l'Association du Québec à Compostelle qui s'est recruter, dans le fond, des collaborateurs, collaboratrices en son sein. Donc, c'est des membres de l'association Compostelle, donc des gens qui sont nouvellement membres, qui sont membres depuis longtemps, des gens qui ont vécu tout genre d'expériences autour de Compostelle, et des gens qui ont à cœur et qui sont comme passionnés de cette expérience-là.
Et il y a d'autres amis de l'émission Marché vers le bien-être, oui. dont Michel Ounir, oui. notre serein pèlerin de l'an dernier, qu'on va accueillir encore de nouveau cette année plus tard, et Guy Vermette et d'autres qui ont
participé. Éric La Liberté aussi, je pense.
Éric La Liberté, voilà. Oui. Oui. Donc, c'est une belle brochette de gens qui oui. ont déjà participé à l'émission et qu'on oui. va revoir et surtout réentendre au fil des mois. Maintenant, parlez-nous un tout petit peu, encore une fois, de la complexité, parce que j'imagine que vous êtes un chef d'orchestre. Vous avez 25 ou 30 musiciens chevronnés haut de gamme et vous devez accorder tout ça, vous devez trouver l'harmonie dans tout ça.
Mais étant donné qu'on avait les meilleurs, ça facilite beaucoup le travail du chef d'orchestre. je vais pas minimiser, dans le fond, l'effort nécessaire pour coordonner. Puis, il a fallu, puis là, les gens d'Ulysse aussi nous ont aidés là-dessus, parce que bien évidemment, lorsqu'on lit, bien entendu, d'entrée de jeu, on sait qu'il y a eu plusieurs auteurs, mais quelqu'un pourrait croire que c'est le même. Donc, on a voulu, dans le fond, entre les différents textes, avoir des renvois d'une information à l'autre, d'avoir parfois des ponts, donc des introductions à une partie, etc., qui fait référence à la partie précédente. Donc, on a voulu comme tricoter tout ça ensemble pour que ça donne un produit un peu harmonisé. Puis dans ce genre d'exercice-là, l'important, c'est pas d'en dire beaucoup, c'est de dire l'essentiel.
Voilà, bien dit. Alors, parlons d'essentiel, la notion de pèlerinage et de pèlerin. Ça a suscité beaucoup de discussions?
Je ris parce que dès le point de départ, d'une certaine façon, puis je dis pas ça, mais bien au contraire, dans nos discussions qui ont été super amicales et en toute confiance avec les gens d'Ulysse, le mot pèlerinage, au début, ça va pas de soi.
Voilà,
parce que spontanément, ils disent, bon, mon Dieu, est-ce qu'ils vont nous amener dans un univers strictement religieux? J'aimerais vouloir dire non, c'est beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, le texte d'Éric campe bien cette vision large du pèlerinage. Donc, mais je dirais que c'est un thème qu'il faut apprivoiser. Il est incontournable parce que les gens qui ont vécu l'expérience de Compostelle ou une autre expérience de longue durée souvent se réfèrent à ce terme-là. De toutes sortes de façons. C'est un terme, dans le fond, qui est comme un peu éclaté. Et je dirais même que c'est un terme qui dépasse même, strictement parlé, l'expérience de Compostelle. Donc, les gens souvent se définissent comme pèlerins lorsqu'ils veulent nous dire que l'expérience qu'ils ont vécue, c'est une expérience de transformation. Donc, c'est le mot qu'ils trouvent pour dire cette expérience-là, ça dépasse l'expérience touristique, sportive. On a vécu quelque chose, souvent, il nomme difficilement, mais le mot pèlerin vient couvrir tout ça.
Donc, c'est plus fondamental, c'est plus universel.
Oui.
On rejoint l'essentiel, toujours. Joanne?
Oui?
Ah bon, pardon, je croyais que vous vouliez vous manifester.
Mais non,
vous aurez l'occasion.
Oui.
Bon, en fait, si je reviens à la section avant, donc avant de partir au niveau de la préparation, la question évidente se pose, pourquoi le faire? L'intention derrière.
Je te laisse aller, Joanne.
Oui, tout à fait. Bon, écoutez, à partir du moment où Compostelle arrive dans nos vies, c'est-à-dire que ça part d'une pensée, ça part d'un déclic. À un moment donné, on a besoin de partir. Moment de transition dans nos vies, retraite, deuil, séparation. Je pourrais pas imaginer partir sur un chemin sans avoir une préparation tant physique que psychologique. Donc, l'association, bien, on a mis en place des activités justement pour préparer les gens pour que l'expérience du pèlerinage soit à son maximum. Donc, comme Denis le disait un peu plus tôt, on n'a pas besoin d'être un athlète, on n'a pas besoin d'être un Olympien, mais il faut quand même être en forme. Sinon, on peut être devant le fait d'être obligé d'abandonner son chemin parce que le corps ne veut plus suivre. Puis au niveau de la préparation psychologique, il y a aussi beaucoup à faire. Parce que le chemin, c'est pas toujours jojo. Donc, il y a des jours où on frappe un mur, il y a des journées où on se demande pourquoi on est sur le chemin. Donc, on essaie de préparer au mieux nos membres avant le grand départ.
Et des fois, il y a des éléments aussi très terre à terre en disant, écoute, cette expérience-là, je veux-tu la vivre tout seul, en couple, en groupe? Donc, il y a des questions aussi de cet ordre-là. Quand je pars-tu au printemps, je pars-tu à l'automne, quel genre d'équipement je vais me trouver? Il y a beaucoup. Puis à ce niveau-là, bien entendu, souvent on se réfère à d'autres pèlerins, des gens qui l'ont déjà fait. Mais je dirais que pour en venir à partir seul, en couple et en groupe, bien, autour de cette décision-là, je dirais que à chacun que tu décides de partir tout seul, en couple ou en groupe, dans tous les cas, c'est un défi. Donc, le défi peut-être pas le même, mais c'est un défi. Il faut apprendre à respecter l'autre, il faut apprendre à se respecter soi-même, il faut apprendre... Ça dépend un peu à quelle saison de notre vie on est rendu, qu'est-ce qu'on a le goût de vivre. C'est pour ça qu'avant, souvent, de se poser la question du comment, comme tu le disais tantôt, il faut poser la question du pourquoi. Donc, c'est qu'est-ce qui me motive? C'est quoi l'élan fondateur? Des fois, je dis, il faut accepter de faire le premier pas, et souvent, ce premier pas-là est la locomotive de tous les autres pas.
Mm-hmm. Mais l'élément déclencheur.
Il faut prendre le temps de savoir ce premier pas-là, à quel endroit tu le déposes? Sur quel terreau tu le déposes?
Il faut aussi songer au chemin qu'on veut
prendre. Oui.
Oui.
Est-ce que c'est une décision difficile, compliquée? Ça comporte quoi, cette décision?
En fait, toute la section des chemins vise précisément à répondre à cette question-là. C'est pour ça que la section des 13 chemins, on aurait pu en présenter 18, 6, etc. On a voulu s'en tenir uniquement à présenter suffisamment d'éléments caractéristiques, la signature du chemin, pour que justement, une personne qui veut faire un chemin, dise « Ce chemin-là me convient-tu? » Je vais donner un exemple très, très simple. Disons quelqu'un qui... À la saison de sa vie où il est rendu, il a le goût de rencontrer beaucoup de gens. Il veut vraiment rencontrer des gens de partout à travers le monde. Donc, il a besoin, lui, d'un chemin qui est achalandé. C'est pour ça que, à la lecture, lorsqu'il va lire, par exemple, la description du chemin des Piémonts pyrénéens, Oh, il va s'apercevoir. Oh, c'est un chemin qui est peu fréquenté. Les gens font plusieurs étapes, souvent en solitude. Donc, il faut qu'il. Là, il va dire, ah, peut-être que ce chemin-là n'est pas fait pour moi. Ou un autre très concret, disons une personne qui aurait des limitations physiques de quelque ordre que ce soit. Il va regarder le Primitivo en Espagne. Puis il va dire, oh, en l'espace de 2 semaines ou un peu moins, il y a 4 sommets de plus de 1000 mètres. Ah, peut-être que ce chemin-là me convient moins. Bien, peut-être que le chemin de Paris-Tours me convient davantage. Donc, c'est de bien ajuster, parce que si on fait un mauvais choix, au point de départ, on est comme déçu. Là, ça ne correspond pas à ce qu'on souhaitait vivre. Puis là, c'est bien triste.
Donc, avant de partir, on précise son intention.
Ouais.
On choisit son chemin. On décide quand partir et on se prépare physiquement. Et j'ose dire, surtout mentalement?
Oui.
Les deux aspects sont très importants.
Oui.
Et il faut en forme physiquement et mentalement.
Exact.
Oui. Écoutez, Joanne, Denis, nous prenons une courte pause musicale et nous revenons pour discuter du pendant le quotidien du pèlerin. Alors, nous sommes de retour avec Denis Dumais et Joanne Morin de l'Association du Québec à Compostelle. Nous parlons de ce nouveau guide, tout nouveau guide, sur les chemins de Compostelle. Nous passons à la section du quotidien du pèlerin. Être pèlerin au jour le jour, sommairement, ça veut dire quoi? Dans le guide, là, qu'est-ce que le guide vous représente?
Dans le guide, on a après réflexion, bien évidemment, après en avoir parlé en petite équipe, on a choisi de le traiter d'une façon assez différente. Ce qu'on a voulu traduire, on a voulu le traduire au ras des pâquerettes. On ne voulait pas, dans le fond, arriver avec un traité, une philosophie. Avant tout, dans le fond, Compostelle, c'est une expérience de vie, une expérience quotidienne.
Oui.
Donc, quand on passe sur le chemin, c'est tout à fait quotidien, c'est la base, c'est la simplicité. On part avec son sac à dos, on marche, on lave notre linge, on mange, on fraternise, on se couche, on repart, etc. Donc, on a voulu, dans cette section-là, faire sentir au lecteur que c'est ça avant tout. Donc, c'est un peu sous forme de récit d'une journée. Donc, dans le détail.
Dès le lever, au matin.
Dès le lever, comment ça se passe. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a voulu le traiter, avec, de temps en temps, bien entendu, des trucs et des astuces qui ne sont pas du tout prescriptifs. Là. Donc, la personne qui a écrit ça a dit, bon, ben, moi, je pense que si on faisait ça de cette façon-là, ça pourrait être aidant ou facilitant pour celui qui vit le quotidien. Un quotidien qui est à la fois simple, mais en même temps qui représente tout un défi. Joanne, je pense que tu serais d'accord avec moi que marcher une journée 20 km ou 25 km, bon, ça va, mais c'est le marcher à chaque jour que c'est pas tout à fait
jour
toujours
après
évident.
Jour après jour.
C'est dans des conditions qui sont très diverses.
Oui, effectivement. Et une journée, c'est beau. Quand on est dans la première semaine, le corps accepte doucement de parcourir ces 25 ou ces 20 ou 25 kilomètres à tous les jours. Et c'est pas toujours la joie de vivre. Là, il y a des journées où il pleut, il faut faire face. Beau temps, mauvais temps, le matin, on part du gîte avec son sac à dos et, soit l'impair si c'est nécessaire. Donc, et des journées plus difficiles que d'autres.
C'est ce que vous soulignez d'ailleurs dans cette section, l'importance de l'attitude mentale, les dispositions de la personne, du marcheur, du pèlerin.
Puis l'élément d'une sorte de résilience aussi. Bon, il y a beaucoup d'entraide sur le chemin, mais parfois aussi, il y a des freins qui peuvent être des ampoules, qui peuvent être mal dans le dos, qui peuvent être mauvais ajustement du sac à dos, etc. Bon, il y a tout aussi une communauté qui entoure, qui peut nous aider à passer à travers ces difficultés-là. Mais ils sont effectivement indéniables, donc d'où l'importance d'avoir une attitude mentale et de se référer, je dirais, à notre pourquoi. Pourquoi, dans le fond, je me suis lancé dans cette aventure-là? Parce que souvent, dans le fond, à différents moments, on dit « Qu'est-ce que je suis venu faire là? » Tu sais, ça fait 25 jours ou 20 jours que je marche ce chemin-là. J'aurais pu me payer un beau voyage en Italie. Puis là, je marche chaque jour. Fait que des fois, dans le fond, tu oublies qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là. Puis là, ben écoute, t'en perds le sens. En perdant le sens, bien souvent, là, tu te mets à remettre en cause, à remettre en question, etc. Donc, il faut se ramener à l'essentiel, il faut se ramener à ce qui était le moteur de l'expérience.
Ce que vous mentionnez dans le guide, maintenir le cap sur les objectifs.
Oui, tout à fait.
Oui.
Le pourquoi.
Oui.
Il y a un autre élément que j'ai trouvé intéressant, je n'y avais pas pensé auparavant, et je n'ai pas tellement vu dans d'autres guides, le journal, tenir son journal, son journal de bord.
Oui.
Et le pendant de tout ça, la correspondance avec la famille, les amis, les connaissances, quoi que ce soit.
Oui.
Pourriez-vous élaborer un petit peu? Je trouve très intéressant de puiser dans ces ressources, de s'étudier, de s'écouter et de transcrire sur papier nos ressentiments, nos émotions, quoi que ce soit.
D'enraciner l'expérience.
D'enraciner l'expérience, voilà.
Joanne, je te laisse aller.
Oui, alors effectivement, notre journal de bord, ça devient aussi notre mémoire du chemin. Hein, jour après jour, on ne sait pas nécessairement toujours dans quel village on est arrêté, quelle auberge, quelle personne on a rencontré. Puis au fil du temps, ben d'avoir tout ça sous la main, ben ça nous permet justement de retourner dans ses souvenirs. Puis la famille, garder contact avec les siens durant qu'on est sur le chemin, c'est souvent les gens qui vont nous motiver parce que eux, ils ont été les premiers à prendre conscience qu'on allait les quitter pour quelques semaines et ils deviennent une espèce d'élément d'inspiration. En tout cas, je parle pour moi, ça a été le cas durant mon premier chemin. Donc, et mon journal de bord, je vous cacherai pas que malgré les 12 ans qui me séparent du premier chemin, il y a encore des moments de grande émotion quand je vais relire certains passages.
Puis en même temps, lors du retour, c'est ce que Joanne dit en termes de mémoire puis tout ça, lorsqu'on est invité, parce que les gens, lorsqu'on revient d'une expérience comme ça, ils veulent entendre parler de ce qu'on a vécu. Donc, on se réfère au journal, soit dans certains cas pour offrir une conférence, pour en parler à ses parents et amis, etc. Donc, pour donner au suivant, parce qu'à la fois, c'est une expérience éminemment personnelle, je trouve qu'on est privilégié par ailleurs de pouvoir la vivre. Donc, on a aussi une responsabilité de pouvoir donner cet essentiel-là aux gens qui nous entourent de toutes sortes de façons. Pour les uns, ce sera écrire un poème. Pour les autres, ce sera de faire du bénévolat. Pour les autres, mais je pense qu'il y a un après du chemin et de pouvoir se référer à ces notes qu'on a prises, ces photos aussi qu'on a prises tout au cours de notre expérience. C'est une matière riche, dans le fond, puis qui peut servir au retour.
Est-ce que la plupart des gens, justement, rédigent un journal? C'est l'exception?
À votre
connaissance?
Qu'est-ce que ça te passe, Joanne? Tu penses que la majorité ont un petit journal?
Bon, je pense que la majorité ont un petit journal, ou tout au moins des notes qu'ils prennent au fil des jours. J'en connais très peu qui n'ont pas quoi que ce soit d'écrit. Il y en a probablement maintenant avec Facebook. Bon, au lieu d'écrire, à chaque jour, ils vont publiciser ce qu'ils ont fait. Mais je trouve que dans l'écriture propre, papier, crayon, il y a aussi un côté très personnel qui est beaucoup plus important que d'écrire 3-4 lignes sur Facebook.
Ce qui avait été mon cas, par contre, en 2014, je m'étais fait prendre au jeu Facebook, mais dans le bon sens, parce que ça m'a servi. Puis justement, ça a donné un livre par la suite. Moi, il y avait des amis et des parents qui disaient, ben, tu veux nous garder contact, on va créer un groupe privé Facebook. Bon, Au début, j'avais aucune intention d'écrire à tous les jours, mais à un moment donné, je me suis fait prendre au jeu. Et là, je partageais des photos, et eux faisaient des commentaires. Il y a eu vraiment... ça a été
un bel groupe, échange.
Ça a été un groupe de soutien. Là. Des fois, ça peut rester à un niveau un peu plus superficiel. Dans mon cas, moi, ça s'est traduit par une expérience de profond échange avec les gens, avec mes amis, avec les gens que j'aimais. Et au retour, ils m'ont dit, ben, écoute, Denis, il faut faire quelque chose avec ça. Fait que là, après ça, il y a eu un livre. Mais,
et vous nous en avez parlé l'an dernier.
Oui, tout à fait. Fait que l'important, dans le fond, c'est de se trouver un moyen qui nous convient. Je pense que l'important, c'est de laisser une trace. D'ailleurs, dans le guide, on remarquera qu'on est, on parlait tantôt d'éléments qui sont un peu originaux. Oui. Dans ce guide-là, on a donné la possibilité à tous nos collaborateurs d'écrire un petit témoignage. Donc, on appelle une expérience qui laisse des traces. Donc, chacun a écrit un petit mot. Puis on retrouve un petit peu partout dans le guide là, ces petits mots, ces petits témoignages-là. Donc,
Capsule ici. Ouais. Là,
je pense que c'est important, magnifique. Dans le fond, de traduire son expérience. C'est en la disant, en la nommant, qu'il y a des choses qui s'enracinent dans dedans. Fait que je pense que c'est important de soutenir les gens qui souhaitent le faire. Puis l'association, c'est ce qu'on essaie de faire là, dans les différentes régions. Comment on peut soutenir les gens qui souhaitent le faire de différentes façons. C'est pas tout le monde qui sont amenés à donner des conférences. Des fois, ce sera une petite capsule. Des fois, ce sera autre chose. Mais l'important, je pense, de nommer son expérience.
Est-ce que la technologie est un frein à l'introspection? Et là, je m'explique parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils marchent, ils écoutent la musique, ils parlent au téléphone. On s'évade un peu de soi-même.
Ouais. Ça peut être un outil comme ça peut être un frein. Ça, oui. Je pense que c'est comme n'importe quel outil si on l'utilise. Mais effectivement, c'est risqué. Il faut faire attention à ne pas se laisser envahir. Comme de la même façon, même si on n'avait pas d'Internet, si on se laisse envahir par les gens qui nous entourent, puis qu'on se respecte pas, puis qu'on se donne pas du temps de solitude, puis que là, à tout bout de champ, du matin au soir, on placote. J'utilise le mot placoter, là, avec les gens sans arrêt. Je me dis, ben là, on perd des rendez-vous avec le lien avec la nature, le lien avec soi-même et tout. Fait qu'il faut, j'en reviens toujours à nommer ce pourquoi on fait le chemin, là. Donc, il faut vraiment savoir se garder ces espaces de solitude, qui se traduisent par de l'écriture, qui se traduisent par de la marche tout seul, qui se traduisent de différentes façons, là.
Joanne, est-ce que vous utilisez beaucoup la technologie?
Je me suis laissée prendre par le jeu. C'est dommage parce que je vous dirais que la première expérience n'a pas, dans mon cas, ça n'a pas été la meilleure. Et la dernière a été une des plus belles expériences que j'ai faites. Toutefois, le soir, les gens, au lieu de discuter, de partager, de raconter leur journée, mais tout le monde est arrivé, chacun sur son petit téléphone, à bon, peut-être faire le journal, mais il y avait comme un... les gens s'isolaient, malheureusement, avec leurs moyens technologiques. Donc, mais oui, je me suis moi aussi laissée prendre. Donc, ça devient plus facile. Hein, bon, on entre en communication directement avec des gens bon, qu'on a laissés ici. Mais on oublie souvent les gens qui sont autour de nous durant cette belle marche.
Puis il faut aussi, pendant cette expérience-là, se laisser dépayser. Mais souvent, on cherche trop de points de repère familiers en gardant contact tout le temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas garder contact, mais d'espacer les contacts. Il faut qu'il y ait un moment où tu perds pied un petit peu, puis tu te retrouves dans une zone où tu es dépaysé pour être capable de retrouver un certain équilibre intérieur. Donc, moi, je pense qu'il faut... Je pense que souvent, par insécurité, on a de la difficulté à lâcher prise à ces balises familières-là. De la même façon, sur le chemin, il y a des balises. Des fois, à un moment donné, on dit « Oh, j'en ai manqué une ». Donc, j'ai l'impression d'être perdu. Mais des fois, dans cette impression-là d'être perdu, il y a comme quelque chose qui se passe qui n'est pas inutile.
Ce qui est intéressant, ce que vous disiez, Joanne, au niveau des gens le soir au retour, qui sont tous accaparés par leur téléphone, chacun isolé. Mais est-ce que les repas, ce n'est pas justement l'occasion de partager, d'échanger? Ça vous a manqué?
Oui, moi, ça m'a beaucoup manqué. Donc, quand j'ai eu la possibilité d'être attablée avec beaucoup de personnes, ben là, c'était vraiment le moment de partage où chacun y allait avec son histoire de la journée, les peines qu'on peut vivre sur le chemin, les incompréhensions de ce qui nous arrive. Donc, ça, je trouvais ça tellement enrichissant comme moment de discussion. Et puis, il faut les savourer quand ça nous est offert. Ben oui, il faut accepter de s'attabler avec des gens de tous horizons et puis d'avoir beaucoup de plaisir à discuter. Mais souvent, c'est ça, hein, au lieu de... On rentre au gîte, au lieu du « bonjour, comment ça va? » Ben là, on regarde, mais les gens sont déjà pris avec leur téléphone. Donc, c'est pour moi, ça a été quand même un choc. Là.
Mais cet élément-là, à mon avis, qui est essentiel, de rencontre vraie avec les personnes, ça fait en sorte que sur le chemin, on choisit nos gîtes. Et il y a des gîtes qui ont cette couleur-là, c'est-à-dire qu'il existe beaucoup sur les rencontres, il y a des repas, alors qu'il y a d'autres gîtes, bon, les gens dorment dans le dortoir, puis il n'y a même pas de repas en commun. Fait que tu peux aussi faire des choix sur le chemin. Si cette dimension-là est pour toi importante, puis je pense qu'elle devrait l'être pour bien des gens, je pense que tu choisis aussi ton gîte en fonction de ça. Donc, il y a des gîtes qui ont des couleurs particulières, puis ça finit par se savoir sur le chemin que tel gîte, il faut absolument arrêter là, parce que, bon, il y a une dimension communautaire, on prépare le repas ensemble, on mange ensemble, alors qu'il y a d'autres gîtes où il n'y a pas cette dimension-là. Fait qu'il faut, bon, c'est pas toujours possible de choisir, mais quand on peut choisir, c'est agréable de pouvoir choisir en fonction de ça.
Vous avez tous les deux vécu de nombreux chemins de Compostelle et de randonnées aussi autres que Compostelle. Vous avez noté une évolution dans tout ça, l'utilisation de la technologie, j'imagine.
Oui.
Et ça se manifeste comment?
Comme dans la société en général. Je dirais que la place que la technologie utilise. Le défi, par contre, je pense qu'on a beau rêver en couleur en disant qu'il n'y en aura plus, ça va toujours être présent. Il faut apprendre, à l'apprivoiser puis s'en servir d'une façon intelligente. Moi, c'est ça un peu ma... Donc, il faut être capable de poser un regard critique sur l'envahissement de la technologie, mais en même temps, il faut plutôt, je pense, trouver une voie pour être capable de l'apprivoiser puis de lui remettre la technologie à sa place, à sa bonne place, comme un outil.
Bien s'en servir.
Comme un outil.
Voilà, comme un outil. Une autre petite pause musicale pour cette introspection, n'est-ce pas? Et nous allons parler ensuite de l'après, au retour des chemins ou des longues promenades au long cours. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Joanne Morin, de l'Association du Québec à Compostelle, et Denis Dumais, qui est un membre très actif de l'association. Nous parlons de ce nouveau guide sur les chemins de Compostelle. Parlons maintenant de l'après, qui est, à mon avis, peut-être la partie, le moment le plus important, parce que pour certaines personnes, c'est un grand changement de vie, c'est un chemin de Tamas, c'est un bouleversement total. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, avec ce bagage qu'on a accaparé au cours de nos marches? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au retour, la première chose que l'on fait quand on revient?
Je dis souvent que c'est l'étape du chemin la plus escarpée.
Ah oui!
Donc,
belle image.
C'est pas simple. Bon, je pense que la première chose, il faut atterrir. Atterrir, pas juste dans le sens premier, mais atterrir. Donc, ça prend un bout de temps pour revenir dans ses bottines. D'ailleurs, souvent, j'ai témoignage de personnes qui, par exemple, revenaient d'une expérience de un mois ou deux, et qui arrivaient, disons, le vendredi soir et qui commençaient à travailler le lundi. Pour eux autres, c'était un choc, le choc du retour plus total. Donc, il faut se donner l'espace, le temps. Bon, l'association, même, on offre des ateliers, des activités pour aider les gens à atterrir, à nommer. Et souvent, dans le fond, une des difficultés, c'est que souvent, ils reviennent de cette expérience-là et ils ont de la difficulté à trouver les mots pour parler autour d'eux. Souvent, les gens leur posent des questions un petit peu, mais souvent, après deux minutes, ça s'arrête en disant « Bon, y a-tu fait beau? Ça a-tu coûté cher? » etc. Eux auraient le goût de parler un peu plus, mais ils trouvent pas, dans le fond, d'auditoire si réceptif que ça à ce qui est, selon eux, un peu le cœur de leur expérience. Bon, souvent, c'est un peu pour ça aussi que l'association, on se retrouve, il y a des occasions qu'on a de partager, d'échanger, là, on a l'impression d'être compris, parce que l'on se retrouve avec des gens qui, eux aussi, ont vécu des expériences de chemin au long cours. Donc, mais il y a un défi, là, de... Et des fois, il y a un défi physique, hein, Joanne, de se reposer, puis de...
Quand on revient, moi, ce qui m'a toujours bouleversée, c'est que quand on est en randonnée au long cours, notre rythme de croisière est d'environ 4,1, 4,5 km/h, alors qu'au retour, on n'a pas le choix, il faut rembarquer rapidement dans le rythme de vie effréné. Donc, que ce soit au niveau de la circulation, le stress, pour les gens qui retournent au travail, il faut vraiment se rembarquer rapidement dans un tourbillon incroyable. Et pour plusieurs, c'est vraiment... je prendrais l'expression, c'est un clash, là. Donc, on a beaucoup de difficultés à revenir dans le monde courant. C'est une difficulté que plusieurs membres vivent au retour. Donc, les gens autour de nous, heureusement qu'on a l'association pour parler de notre expérience, parce que les gens autour de nous, comme le disait Denis, au bout de 5 minutes, ils ont perdu tout intérêt parce qu'ils comprennent, à la base, ils comprennent pas pourquoi on a fait l'expérience. Et puis, pour eux, ben, d'entendre parler qu'on a marché notre 20 ou 25 kilomètres jour après jour, ça perd toute son essence, alors que pour nous, on aurait envie, juste envie de parler du chemin et de ce qu'on a vécu.
C'est encore plus vrai, Joanne, lorsqu'on annonce à nos proches qu'on y retourne. Parce que là, ils disent, voyons, non, c'était pas tannique, Compostelle décroche un peu de Compostelle de la marche au long cours. Donc, ils sont tous surpris d'apprendre qu'on y retourne, donc, puis même qu'on a aimé ça, puis qu'on est comme un peu passionné par ça. Donc, c'est tellement drôle.
Donc, ce que vous dites, c'est qu'il faut préciser un peu d'où l'on revient, l'expérience. Oui. Et j'aime bien dans votre guide vous parler aussi d'accueillir les questions qui émergent, parce qu'il y a toutes sortes de questions qui sont venues à la surface pendant le projet.
Et souvent des remises en question.
Des remises en question.
D'un style de vie ou de...
Et vous parlez aussi de prendre les moyens de favoriser la transition, mais c'est quoi? Quels sont ces moyens que vous, par exemple, Denis ou Joanne, avez trouvé tout à fait efficaces là, pour revenir?
Moi, ce qui a été salutaire, si je peux dire, c'est donner au suivant. Donc, à partir du moment où je me suis rendu compte que mon expérience pouvait servir à d'autres, je me dis, là, il y a un moyen, il y a un espace d'enracinement de mon expérience. Ça m'oblige, à partir du moment où tu t'impliques, tu t'investis, tu favorises, dans le fond, l'expérience de d'autres, ben ça t'oblige un petit peu à mieux identifier quel a été l'essentiel de ton expérience, en quoi ça t'a apporté, etc. Donc, pour moi, l'association ou la possibilité que j'ai eue de m'investir dans l'association, et aussi, je dirais, bon, il y a eu mon expérience de livre, mais d'en parler autour de moi et d'être capable de mieux en parler. Donc, pour moi, ça a été très salutaire comme expérience d'atterrissage.
Je l'ai mentionné. Oui, Joanne.
Non, j'étais pour dire que pour ma part, bon, au-delà de l'implication de bénévoles au sein de l'association, moi, je suis allée comme hospitalière dans un gîte en France. Donc, c'était ma façon aussi de reprendre pied et de redonner au suivant. C'est-à-dire qu'au lieu d'être accueillie, j'accueillais. J'étais là pour consoler... donner aux pèlerins qui arrivaient tout ce dont ils avaient besoin pour que leur séjour au gîte soit le plus agréable possible. Donc ça, ça a été une expérience très marquante pour moi.
Donc vous passiez quoi, une semaine ou deux comme
J'ai
hospitalière?
Passé, deux semaines comme hospitalière et c'est quelque chose que je vais revivre parce que la richesse des échanges, je vous disais tout à l'heure que bon, les gens étaient rivés sur leur téléphone, mais pendant les 15 jours où j'ai été hospitalière, j'ai eu la possibilité d'être en contact avec les pèlerins et d'échanger autour de la table. Donc ça a été vraiment... j'ai vécu des moments excessivement magiques. Donc,
et il y a beaucoup de gens qui souhaitent le faire, être hospitalier. Oui. Je souhaiterais moi-même le faire. Il y a beaucoup de gens de l'association qui l'ont fait, qui sont devenus hospitaliers.
Donc ils retournent après leur...
Ah oui.
Leur chemin pour passer une semaine ou deux ou trois ou quoi.
Et ce qu'ils font souvent, dans le fond, ils vont comme marier ça avec un projet de chemin.
Ou...
Non, mais ils vont aller, par exemple, deux semaines comme hospitalier, puis ils vont marcher pendant deux semaines ou trois semaines. Donc, ça devient intéressant comme expérience.
Est-ce que vous diriez que c'est très important de tenir suite à ces révélations ou les impulsions ou les projets qui me viennent en tête après le chemin? Il y a peut-être des gens qui se disent, bon, non, c'est un beau rêve, c'est un beau projet, mais je le mets de côté. Est-ce qu'il faut vraiment aller pousser plus loin ou c'est selon la personne?
C'est ça, j'aurais tendance à dire que c'est pas une obligation.
Oui.
Par contre, je pense que pour les gens qui le souhaitent, de trouver un environnement qui est favorable à cette émergence-là, c'est positif. Puis, des fois, les gens, bon, ils vont vivre une première expérience, ils vont le vivre à un certain niveau, ils vont en vivre un deuxième, puis c'est lors de la deuxième expérience que là, ils vont... Ça dépend aussi du cheminement. Puis l'expérience de Compostelle n'est pas détachée du reste de notre vie, dans le sens que, quand on parlait tantôt, lorsqu'on revient, qu'on essaie d'enraciner ou d'atterrir, qu'est-ce que tu fais après ça de ton quotidien? Comment, dans le fond, l'expérience de Compostelle s'incarne dans ta vie de tous les jours, dans ton lien avec les autres, dans ton lien avec l'instant présent, dans ton lien avec la nature. Donc, quelle continuité tu donnes à Compostelle dans le day-to-day, là, dans le jour, au jour le jour. Donc, ça aussi, c'est important. Puis ça dépend aussi que, tout ça fait partie d'un projet de transformation. Bon, tu peux aller plus ou moins loin, dépendant d'une foule de facteurs.
Mm-hmm. Oui. Oui, Joanne.
Bon, pour enchaîner sur ce que Denis disait, il y a aussi les gens, on part souvent avec l'idée à la base que c'est un défi physique. On part souvent des randonneurs, mais on revient pèlerin. Il y a un changement qui s'installe au fil des jours. Le défi physique vient, il passe au second plan. Il y a quelque chose au niveau de l'introspection, de la connaissance de soi, de se retrouver, de se connecter aux vraies valeurs de la vie. Donc, c'est des changements. Souvent, on en prend conscience au retour. Parce qu'il y a un mode de vie qui peut changer. Il y a des attitudes différentes. Il y a des gens de qui on s'était éloigné. Pourquoi? Donc, il y a une grande remise en question, mais souvent, tout ça, ça se passe après.
Et c'est intéressant l'expression que vous avez utilisée. Certaines personnes partent randonneurs et reviennent pèlerins ou pèlerines.
Ouais.
Est-ce que c'est courant?
Je pense...
De votre expérience?
En fait, ce que ça dit comme expression, ça dit que tout au cours du pèlerinage, de la route, il y a des changements qui se produisent. Fait que des fois, effectivement, tantôt, on disait qu'il fallait bien identifier nos motivations de départ. Peut-être que dans un premier temps, ta motivation de départ, c'est que tu as juste le goût de prendre une pause, puis tu as le goût de te mettre en forme physiquement. Puis là, tout à coup, à un moment donné, tu marches, tu rencontres des gens, tu t'aperçois. Et là, il y a peut-être des choses qui changent. Donc, quand tu arrives un mois plus tard, après la marche, après avoir marché tous les jours, il y a une transformation subtile, je dirais, qui a pu s'opérer. Donc, d'où l'expression « on part randonneur ». Donc, tout ce que ça dit, c'est qu'il y a un changement qui s'opère. Et comme le disait Joanne, des fois, lors du pèlerinage comme tel, on ne s'en rend pas trop compte. C'est au retour, dans les différents choix qu'on fait, dans les personnes qu'on rencontre, etc., que l'on s'aperçoit que, il y a eu effectivement. Et souvent, des fois, parfois, c'est les autres qui nous le disent. Mon Dieu, t'es donc bien différent.
Et, pendant le chemin ou
au retour?
Au retour,
c'est ça. Oui. Et des fois, il y a des changements qui peuvent, dans le fond, se traduire par... Bon, tu avais un groupe d'amis X, tu faisais différents choix avant de partir, puis il y a des choses qui ont changé, et tu te retrouves moins avec ce groupe-là, tu t'es fait des nouveaux amis, donc il y a des choses qui changent, là, qui peuvent amener, dans le fond, une certaine séparation, ou certains choix de vie qui sont autres, qui est autre.
Ici, on revient au Québec, et on veut marcher toujours sur les chemins de Compostelle, mais on n'est pas là-bas, bien sûr.
Oui.
Ben, on est bien servi au Québec.
Ben oui, tout à fait. Puis je pense que dans le texte, un des originalités du texte d'Éric, c'est un peu ce que le texte d'Éric nous dit. C'est que le plus important au-delà du lieu où on marche, c'est dans quel esprit on marche. Donc, l'esprit pèlerin. Puis effectivement, ce qu'on a pu vivre sur les chemins de Compostelle, on peut ici, au Québec. Il y en a qui le font au Japon, au Brésil, sur différents chemins. Mais je pense qu'il y a comme quelque chose qui dépasse le lieu physique. Et il y a moyen, dans le fond, de conserver de cette expérience-là cet esprit de Compostelle. Puis effectivement, c'est un peu ce qui se passe là. Il y a des gens qui vont marcher ici au Québec, ou il y a des gens qui ont parti des chemins ici au Québec, puis qui ont voulu les partir ou les inaugurer dans l'esprit de Compostelle. Donc, il y a comme quelque chose qui dépasse le lieu physique. Donc, je ne dis pas que le lieu physique n'est pas important, mais je pense que l'esprit pèlerin peut être vécu sur plusieurs chemins.
C'est une des grandes qualités du guide que j'ai trouvé, qu'il est universel en ce sens. On peut le marcher sur Compostelle, bien sûr, mais sur n'importe quelle promenade, randonnée au long cours, parce que c'est l'essence même de la marche.
Et d'ailleurs, dans la pandémie, hein, Joanne, je pense que tu seras d'accord avec ça, ça a fait en sorte que, bien évidemment, beaucoup de jeunes n'ont pas pu aller à Compostelle et ont découvert des chemins au Québec et ont continué de marcher. Donc, quand tu as cette piqûre-là de la marche, tu continues de la vivre dans ton quotidien, tu continues de vouloir marcher. Je pense que dans les 2 ans, ici, il y a beaucoup de nos membres qui ont découvert des chemins au Québec. Donc, moi-même, j'en ai découvert certains. Fait que, Joanne aussi, je pense.
Pas nécessairement au Québec, mais ne serait-ce que de partir jour après jour, marcher 2 heures ou 3 heures et de retrouver cet esprit de pèlerinage là. Pour moi, c'est tellement facile de aussitôt la porte fermée de dire bon ok, je suis sur un chemin, que ce soit un chemin urbain en campagne, donc. Il y a possibilité de marcher au Québec, effectivement, puis on a de plus en plus de très beaux sentiers.
Tout à fait, tout à fait. Une dernière pause musicale et ensuite une petite question piège pour chacun, chacune. Nous sommes de retour en compagnie de Denis Dumais, membre de l'Association du Québec à Compostelle, et la présidente, Mme Joanne Morin. Voilà. Ben, pas tout à fait la question piège tout de suite. Je voulais soulever ce que vous avez mentionné un peu plus tôt, la section sur les chemins, parce que c'est quand même important. Ouais. Vous donnez une quinzaine, je pense, de parcours très intéressants. Et... qu'est-ce qu'on y retrouve? Est-ce qu'on y retrouve un chemin, une description très détaillée ou c'est en fait quelques photos et puis...
Quand je disais tantôt que ce n'était pas un guide d'accompagnement, donc dans les guides d'accompagnement, souvent, il peut y avoir des guides qui ont 200 pages juste sur un chemin, et là où on donne les adresses, les tarifs, les numéros de téléphone, etc. Donc, ce n'est pas du tout de cet ordre-là. Ce qu'on a demandé au rédacteur de cette section-là, en disant... donner suffisamment d'éléments en termes de caractéristiques pour que le lecteur puisse bien saisir la signature du chemin, l'essentiel du chemin. Donc, à la fois, il y a des éléments historiques, il y a des éléments sur le type de difficulté que représente le chemin, il est situé où, etc. Et il y a aussi une autre section sur les attraits. Est-ce qu'il y a sur ce chemin-là des éléments particuliers de l'ordre du patrimoine mondial de l'UNESCO, des choses qui sont à signer, qui sont à... Fait que ça peut tout à fait aider la personne à choisir son chemin. Donc, en dire suffisamment, pas trop. Il y a chacun des rédacteurs, bien entendu, c'est des gens qui ont fait le chemin en question, donc il y a toujours une petite trace...
une appréciation personnelle.
Une appréciation, mais de leur témoignage, au moment où ils l'ont fait, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Il y a souvent un petit encart là, sur des choses un peu inédites. Y a-t-il, par exemple, dans ce chemin-là, une légende qui est particulière, y a-t-il, etc. Oui. Donc, ça aussi, ça fait partie, ça c'est venu agrémenter. Et il y a bien évidemment la carte des dénivelés. La carte du parcours, donc pour qu'on puisse se situer...
La difficulté physique. Où,
exactement. Donc, suffisamment d'éléments aux alentours de 1500 mots là, pour décrire un chemin. Donc, il y en a 13 ou 14, etc. Donc, on a aussi choisi, bien évidemment, on aurait pu en parler de plus de chemins que ça, mais on a choisi les principaux. Dans certains cas, les moins connus, comme par exemple, il y a les chemins sur la Bretagne. Donc, ils sont un peu moins connus.
Jusqu'au Mont-Saint-Michel, c'est quand même une distance, là.
Texte, effectivement, à partir du Mont-Saint-Michel, aller jusqu'à Bayonne. Donc, il y en a qui sont un petit peu moins connus ou fréquentés. Mais je pense qu'il y a l'essentiel là, dans ce chapitre-là.
Alors, Joanne, la question piège.
Oui.
Quel est votre chemin préféré?
Je les aime tous. Mais je ne vous cacherai pas que j'ai eu un coup de cœur pour la section du Puy-en-Velay à Conques, qui est sur une dizaine de jours. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Tant par les paysages que par l'accueil, par les décors incroyables. Donc, presque à chaque fois que je retourne, ben, il y a toujours un petit tronçon qui se fait sur ce chemin-là. Donc, c'est vraiment mon coup de cœur, mais pour avoir fait les trois pays, chaque chemin a ses particularités et ses difficultés. Donc,
Puis effectivement, les coups de cœur ou la question souvent est en lien avec à quel moment ou qu'est-ce qui se passait dans ta vie au moment où tu avais écouté le chemin. Donc, l'appréciation du chemin est souvent intimement liée. Puis pour certains, dans certains témoignages qu'on entend, c'est des fois le premier chemin a une place un peu particulière aussi l'appréciation des gens. Moi, j'ai beaucoup aimé le Primitivo, mais effectivement, il y a quand même plein d'autres chemins.
Le Primitivo, c'est votre
préféré? C'est en Espagne.
Donc.
Moi, je l'aime bien, mais je l'ai beaucoup aimé. J'ai aimé, effectivement. Oui.
Le Primitivo en Espagne.
Qui est d'Oviedo aller jusqu'à Santiago, là, mais qui est très montagneux. Donc, j'aime beaucoup les montagnes. Donc, c'est un tronçon de chemin. Ce qu'il faut dire par rapport au choix des chemins, il y a une tendance ces dernières années, pour toutes sortes de raisons, les gens sont à la recherche de chemins un petit peu plus courts.
Ah.
Pour toutes sortes de raisons, souvent, des obligations de travail, les gens peuvent pas partir pendant des mois. Les gens qui demeurent en Europe, eux, souvent, vont le faire sur plusieurs années. Donc, ils vont faire un tronçon 15 jours, après ça, l'année suivante, ils vont partir, ils vont continuer. Mais actuellement, je regarde, par exemple, le chemin du Portugal de Porto à Santiago Fisterra est de plus en plus en demande à cause, justement, de cette recherche d'un chemin un petit peu plus court dans le temps. Mais en général, on dit, sans que ce soit une règle immuable, que idéalement, quand quelqu'un peut s'offrir un départ d'au moins 3 semaines, c'est pour être dépaysé, là, pour sortir un petit peu de la routine quotidienne. Puis, fois, un 3 semaines, c'est pas trop. Hein, Joanne?
Non. C'est pas trop. Même si c'est pas assez.
Il y a une petite section statistique à la fin, Denis, où on en parlait en pré-entrevue. Si vous pouviez nous dresser un tout petit portrait du profil du marcheur ou de la marcheuse au niveau femme, homme, et ainsi de suite. C'est quand même intéressant, l'évolution au fil des ans.
On fait référence au texte de Michel O'Neill, je crois.
Oui.
Oui, effectivement. Ce qu'on s'aperçoit, si on fait une comparaison, d'une part, une des choses, au fil des ans, je dirais que le chemin se féminise. Il y a de plus en plus de femmes. À une certaine époque, il y avait plus d'hommes que de femmes. Là, maintenant, c'est inversé. Pour ce qui est du Québec, dans le fond, les gens qui se rendent à Compostelle à partir du Québec, je dirais que la moyenne d'âge est un petit peu plus élevée que dans d'autres pays. Donc, peut-être toutes sortes de raisons associées à ça. Donc, beaucoup de gens qui attendent à leur retraite pour vivre Compostelle. Donc, c'est souvent des chiffres qu'on trouve. Parlant de chiffres et de statistiques, bien évidemment, comme d'autres organisations, la pandémie a joué dur. Donc, oui. Il y a eu une baisse de fréquentation des chemins de Compostelle. Là, ce qu'on a comme indication, c'est que cette année, on revient presque à ce qui était la situation en 2019. Bon, ce qu'il faut dire, que cette année, c'était une année jacquère, une année sainte. Donc, particulièrement pour les gens d'Espagne, il y a beaucoup de fréquentation des chemins, beaucoup de gens qui se rendent à Santiago lors des années saintes. Donc, ça joue. Mais on revient presque à Joanne. On n'est pas loin. Les derniers chiffres qu'on avait de l'accueil de Saint-Jean-Pied-de-Port, entre autres, on revient presque, dans le fond, à ce qui était le niveau de 2019. On est très heureux.
Alors, je sens dans vos voix une très grande fierté du travail accompli.
Et c'est un gros merci à tous les collaborateurs. On parlait tantôt d'une trentaine. Là. Le projet de guide n'aura pas pu voir le jour sans l'investissement, l'engagement de ces personnes-là.
Et en terminant, j'aimerais souligner un prix tout à fait spécial que vous avez reçu. C'est le prix de la Société française des chemins de Compostelle, tout à fait prestigieux pour l'ensemble de votre œuvre au fil des ans. Alors, je vous en félicite tous et toutes.
Merci
beaucoup. On est très contents. Puis, on va aller, à cause de la pandémie, on n'a pas pu aller le chercher cette année, mais Joanne va faire peut-être un petit voyage l'année prochaine pour aller nous ramener le prix.
Formidable. Alors, Joanne, à Québec, Denis, ici en studio à Montréal, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui.
C'est un grand plaisir.
Merci, Denis.
Et chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Et je vous rappelle que Marcher vers le bien-être vous est présenté les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 11h, à 10h plus tôt. Et vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions qui y sont archivées. Aussi sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode. Merci encore une fois à nos invités, Joanne Morin, présidente de l'Association du Québec à Compostelle, et Denis Dumay, membre très actif de l'association. Et je remercie aussi notre technicien, Xavier Gauvin, de sa complicité amicale et toujours entraînante, comme d'habitude. Je vous laisse sur cette pensée de Lionel de Compostelle, justement. Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t'intéresse plus. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.
Bonne chance.